Construire un monde plus humain, ça commence par nous. Avec le Crédit Coopératif, ensemble, nous avons ce pouvoir. Le pouvoir du nous.
Que veulent ces marginaux?
Ils font ça en signe de protestation. Ils veulent changer le monde.
Changer le monde? Quelle drôle d'idée! Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer.
Après l'ère industrielle, chez nous, il y a eu les grands procès et les boycotts.
Le boycott?
Tout ce qui était mauvais pour la vie, on l'achetait plus.
C'était l'arme absolue. Plus d'achat, plus de pouvoir.
Ouais.
Ça commence par moi, l'émission.
Bonjour et bienvenue dans Ça commence par moi, l'émission sur Rage. Moi c'est Julien et je suis très heureux d'être avec vous pendant cette prochaine demi-heure parce que le monde de demain, c'est aujourd'hui que ça se passe. Nous allons répondre ensemble aux grandes questions de notre époque pour apporter des solutions efficaces et applicables directement dans notre réalité. Ça commence par moi, c'est l'émission de la transition éco-citoyenne qui donne la parole à des acteurs du changement. Ça se passe sur la radio Rage chaque semaine et vous pourrez bien entendu nous suivre sur les réseaux sociaux et retrouver le podcast sur iTunes et rage.fr. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de technologie, un sujet sur lequel on dit tout et surtout n'importe quoi. Pour certains, le salut de notre société ne passera que par l'innovation technologique, avec notamment la démocratisation des voitures électriques, de panneaux solaires, mais aussi le développement de sujets comme l'intelligence artificielle et puis même les calculateurs quantiques. Pour d'autres, c'est justement ce qui nous fera courir notre perte et à en croire Stephen Hawking, il vaudrait mieux tout arrêter ou sinon on va tous se terminer complètement annihilés par la technologie. Bon, alors voilà, entre les deux, il y a forcément un juste milieu à trouver et pour tenter d'apporter les éléments de réponse et réussir, conjuguer technologie et durabilité, nous accueillerons Corentin de Châtel-Perron qui nous parlera du Low-Tech Lab et de son tour du monde des low-tech lancé à travers le projet Nomade des Mers. Mais avant d'accueillir notre invité, moi je voulais partager comme d'habitude la bonne nouvelle de la semaine car c'est bien connu, on entend beaucoup moins la forêt qui pousse que les arbres qui tombent.
Encore une bonne raison de se réjouir d'un monde qui change avec Ecosia, le moteur de recherche qui plante des arbres.
Et chaque semaine apporte en ce moment son lot de bonnes nouvelles. Preuve s'il en est que les choses bougent de plus en plus en ce qui concerne, les sujets éco-citoyens. Cette semaine, moi, je voulais vous parler du Parlement européen qui a voté pour l'interdiction des produits en plastique à usage unique. En effet, les eurodéputés ont récemment soutenu à une très, très, très large majorité un texte visant à interdire les cotons-tiges, couverts, assiettes et autres pailles en plastique, mais aussi proposer d'ajouter à cette liste des produits comme les emballages de fast-food ou les produits aux plastique supposé biodégradable mais qui se fragmente en microparticules de plastique. C'est une bonne nouvelle pour nos océans qui n'en peuvent plus d'accueillir nos déchets plastiques toujours plus nombreux. Et d'ailleurs, du plastique dans les océans, il a dû en voir un paquet depuis le temps qu'il navigue sur les mers du monde entier. J'accueille tout de suite Corentin de Châtel-Perron du Low-Tech Lab. Salut Corentin.
Bonjour.
Alors, le Low-Tech Lab, on en parle et on va en parler, mais c'est pas la chose que tu as tout de suite lancée, puisque toi, tu as commencé avec le projet Gold of Bengal, où tu es parti du Bangladesh avec un bateau que tu avais fabriqué toi-même en toile de jute, pour montrer qu'en fait, il y avait la capacité à reprendre des savoirs ancestraux, pour finalement faire des choses assez extraordinaires. Tu es rentré en France, tu t'es dit, bon, cette idée était à moitié géniale, à moitié folle. J'ai d'autres idées, j'ai envie de continuer dans ce sens-là. Tu as lancé le Low-Tech Lab avec notamment cette volonté de faire le tour du monde des low-tech avec Nomade des Mers, c'est ça?
Oui, exactement. En fait, il y a quelques années, avec des amis, on s'est rendu compte que dans le monde, dans plein d'endroits du monde, il y a des inventeurs qui inventaient des super systèmes. Souvent sous contrainte, en fait, dans des pays en voie de développement, par exemple, t'as l'ingéniosité qui est décuplée parce que il n'y a pas le choix que de faire avec les matériaux locaux, avec les moyens du bord, en fait. Et en fait, donc, il y a plein d'idées qui naissent partout dans le monde et on s'est dit, mais ce serait génial que ces idées-là, on puisse les trouver, repérer tous ces inventeurs et faire connaître ces idées en open source pour que n'importe qui puisse les répliquer.
Il y a eu une fusion de MacGyver et d'Indiana Jones, et cette fusion est française, c'est toi.
Exactement, moi je suis fan de MacGyver à la base. Ce qu'il y a, c'est que je trouve pas vraiment des trucs super. Moi-même, je suis pas vraiment un géotrouve-tout. J'aimerais bien l'être, mais non. Mais par contre, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de géotrouve-tout partout dans le monde, et qu'en général, le problème, c'est qu'ils inventent un truc génial, mais qui reste à échelle locale, alors que parfois, ça pourrait intéresser des millions de personnes à l'autre bout de la planète. Et c'est ça notre mission au Low-Tech Lab.
Et donc, t'as pris ton bateau et t'es parti à la rencontre.
Ouais. Ça fait 2 ans et demi qu'on navigue autour du monde. Pour l'instant, on est parti de Bretagne, parce que nos bureaux sont à Concarneau. Et on a été en Afrique de l'Ouest, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, à Madagascar, en Inde, au Sri Lanka, en Thaïlande, en Indonésie. Et à chaque fois, on rencontre des inventeurs de low-tech, on teste ensemble leur low-tech, on la fabrique, on l'installe sur le bateau et on la documente. Donc on fait des tutos écrits et des tutos vidéo qu'on diffuse ensuite en open source via Internet dans l'espoir qu'il y a des gens qui puissent les répliquer à l'autre bout du monde, créer des économies locales et répondre à des problèmes comme l'accès à l'eau, l'énergie, la nourriture, la malnutrition, etc.
On parle de low-tech depuis le début de l'émission comme si c'était quelque chose de normal. Est-ce que tu peux nous redonner peut-être une petite définition et même encore mieux, un exemple de low-tech que tu as découvert?
Bonne idée. Alors, ce qu'on appelle les innovations low-tech, ça répond à trois critères. Le premier, c'est que ça doit être des innovations qui sont utiles, c'est-à-dire qui répondent à un besoin de base, comme l'accès à l'eau, l'énergie, la nourriture, le recyclage, etc. Le deuxième truc, c'est qu'il faut que ce soit accessible. C'est la différence avec les high-tech qui demandent des compétences pointues ou des outils très sophistiqués. Les low-tech, tu peux les faire un peu partout dans le monde. Et le troisième truc, c'est que ça doit être des technologies qui sont durables et qui utilisent des ressources naturelles et qui sont respectueuses de l'environnement. Et en fait, des technologies, des innovations qui répondent à ces trois critères, il y en a vraiment plein. Je peux te donner un ou deux exemples.
Ouais, bien sûr, avec plaisir.
Il y en a plein en fait. On a, pour l'instant, on s'est arrêté dans 12 pays. On a documenté une quarantaine de low-tech. Donc, je vais piocher là-dedans.
En fait, Corentin est avec son chapeau à low-tech.
Moi, il y en a une qui m'a vraiment particulièrement marqué. Parce que c'est dans le sud de Madagascar, une dame qui a fait une ferme de culture de spiruline. Je ne sais pas si tu connais la spiruline, c'est une micro-algue en fait, qui est facile à cultiver, qui grandit très vite, qui a besoin de très peu de ressources, et en fait qui est pleine de protéines, de vitamines et de minéraux. Et en fait, il se trouve que dans le sud de Madagascar, il y a des gros problèmes de malnutrition. Et donc cette dame qui s'appelle Madame Vola, elle a créé il y a quelques années une ferme de spiruline. Elle a une entreprise grâce à laquelle elle vend de la spiruline à l'étranger et avec les bénéfices, elle en donne à des enfants malnutris de la région. Et en plus de ça, elle forme des jeunes malgaches à la culture de spiruline pour qu'ils puissent à leur tour faire des fermes dans d'autres endroits de Madagascar. Donc pour moi, c'est un exemple génial parce que déjà, ce savoir-faire low-tech est super. On peut, via un tuto écrit ou un tuto vidéo, comprendre comment ça marche. On peut le démarrer à petite échelle sans gros investissements. Donc ça s'adresse vraiment à beaucoup de gens. Et voilà, ça crée une économie locale, ça répond à un vrai problème localement.
Facile. Mais alors,
facile. Bah ouais, disons qu'en fait, celui-là, c'est aussi un bon. Il fallait y penser. C'est un bon exemple aussi parce que ça se propage pas mal dans pas mal de pays du monde. Et donc, c'est le genre de low-tech qu'on suit où t'as. Parce que là, je vois qu'il y a pas mal de trucs high-tech, et en fait, ça fait pas mal de, autour de moi, dans le studio, ça fait pas mal de déchets aussi, et parmi ces déchets-là, en fait, on peut trouver plein de ressources. Et il y a un bon exemple qu'on a trouvé dans les déchetteries de Dakar, au Sénégal, c'est toutes les photocopieuses, les imprimantes, les scanners, dedans, il y a des petits moteurs qui peuvent être transformés très facilement en éoliennes pour produire du courant, de l'électricité, recharger des portables, des lampes, etc. Ouais. Et donc là, pareil, on documente la technologie, on la fait connaître, et depuis, c'est un bon exemple possible parce que cette technologie, cette éolienne low-tech, elle a séduit des gens dans le monde entier et il y en a même qui se sont mis à faire des formations pour former d'autres gens à faire cette éolienne.
Et donc la découverte, elle est forcément hyper importante, identifier ces porteurs d'innovation low-tech et à la fois la documentation, elle est aussi clé parce que ce qu'elle veut dire, il faut arriver à généraliser cette documentation, la rendre suffisamment compréhensible pour que tout le monde avec nos codes, nos langues, on puisse s'en saisir. J'imagine que ça passe donc comme tu disais par papier, image, idéalement vidéo. J'ai même cru comprendre que vous êtes en train de lancer une campagne de crowdfunding pour réussir à avoir une sorte de Wikipédia des low-tech, non?
Ouais, on a commencé par créer cette espèce de Wikipédia des low-tech qui s'appelle le Low-Tech Lab. Et puis en fait, on s'est rendu compte que plus que le tuto écrit, le tuto vidéo, il permet de passer les frontières de la langue. Et quand t'as par exemple un russe qui va poster une vidéo en russe d'une low-tech qu'il a inventée, ça peut parfois, même sans la traduire, on peut comprendre ce qu'il fait, et donc ça va, je sais pas, inspirer quelqu'un aux Philippines ou en Inde ou à Madagascar, etc., qui va refaire une vidéo, qui va la poster, qui va inspirer quelqu'un d'autre, etc. Et par ce jeu de rebond, il y a des recherches collaboratives qui se font, tout en open source, et qui sont gratuites et hyper efficaces. Et donc, on s'est mis aussi à faire des vidéos tutos. Et donc, effectivement, là, on fait un financement participatif pour permettre la production des 15 prochaines vidéos tutos.
Et toutes les personnes qui nous écoutent peuvent retrouver les infos sur votre page Facebook, j'imagine.
Ouais, exactement. C'est via la plateforme Ulule.
Ok, ça marche. Donc, on a tout ça qui est en train d'être financé, et donc avec cette envie d'avoir cette énorme plateforme. Et puis forcément, puisque toi, t'es pas quelqu'un qui te pose au même endroit pendant plus de quelques mois, t'es déjà en train de préparer la phase 2 du voyage.
Ouais, en fait, donc le bateau, il est en Thaïlande en ce moment. Là, en début d'année, j'ai passé quelques mois sur une plateforme flottante avec les 30 meilleures low-tech découvertes entre la Bretagne. J'ai l'impression que ça te fait marrer.
Ça fait marrer, je suis désolé, parce que tu me dis ça le plus naturellement du monde. Bah oui, j'ai passé 4 mois sur une plateforme flottante
avec un canard.
La Thaïlande. Vas-y, pardon, excuse-moi, mais c'est quand même surréel cette conversation. Vas-y, vas-y.
En fait, pour bien documenter les low-tech et t'en parler un petit peu avant, c'est un travail de faire le truc pour que ce soit didactique, tu vois, il faut absolument que on ait testé toutes les low-tech pour les avoir validées, parce qu'il y a aussi quelquefois des technologies qui sur le papier marchent très bien, mais en réalité ne marchent pas bien, donc
la
on les teste nous-mêmes.
La fausse bonne idée.
La fausse bonne idée, ça y en a pas mal. Donc on la teste nous-mêmes, et pour pouvoir bien la partager, il faut aussi qu'on la comprenne bien. Et donc être usager, être cobaye de notre propre low-tech, c'est important. Alors on le fait un petit peu sur le bateau, qui est vraiment un laboratoire flottant. Mais j'ai décidé en début d'année de m'installer sur une plateforme flottante. C'est, si tu veux avoir une idée un peu du truc, c'est plein de bambous alignés qui forment un plancher de 7 mètres de large par 14 mètres de long, avec une petite serre de 40 mètres carrés dessus. Et là-dedans, j'ai mis en vrac toutes mes low-tech, en fait. Et j'ai essayé d'en créer un écosystème, une espèce de base vie pour répondre à tous mes besoins. Et pendant 4 mois. Et donc, j'ai créé un espèce d'écosystème avec un élevage de grillons, une culture de spiruline, avec un système pour recycler l'urine en nutriments pour les plantes et un système d'hydroponie pour faire pousser des plantes. Enfin voilà, il y avait tout un bric-à-brac de trucs. Et ah oui, et tu demandais ce qu'on allait faire après.
Non, mais c'est quand même dingue, parce que c'est la permaculture appliquée au low-tech, quoi.
Bah ouais, et en fait, on s'est rendu compte que, alors déjà, ça sert à tester chacune des low-tech une à une, et aussi, il y a une autre dimension intéressante, c'est que c'était la première fois que certaines low-tech se rencontraient, puisque c'est des idées qu'on a trouvées aux quatre coins du monde, mais séparément. Et les mettre ensemble, ça a créé une espèce de base vie, et ça, c'est le début d'un projet plus long qui nous servira à développer une base vie pour des déplacés climatiques, pour des réfugiés, etc.
Génial. Et donc la deuxième phase en quelques secondes, vas-y.
Et en fait, là, on est en train de préparer la suite du voyage, puisque le bateau est en Thaïlande. Et donc là, on prépare le trajet entre la Thaïlande et le canal de Panama. Et là, il y a plein de super low-tech qui nous attendent, avec plein d'inventeurs géniaux qui sont pas assez connus.
Et bien évidemment, on pourrait parler des heures et des heures de tout ça avec Corentin. Il y a une série qui est en train de se lancer sur Arte.
Ouais,
hein, de documentaire.
C'est 15 films sur les 15 premières escales. Chacun fait 26 minutes et chacun présente une low-tech dans un pays. Voilà. Et ça commence lundi. Le 29 octobre jusqu'au 16 novembre.
29 octobre 2018 jusqu'au 16 novembre, c'est ça?
Ouais.
Ok, super. Du coup, moi, je me sens un peu moins mal à l'idée de changer de sujet. Mais avant de changer de sujet, t'es venu avec une musique dans tes poches, non?
Ouais. En fait, y a un groupe que je connais depuis des années et des années et qui m'accompagne un petit peu partout quand j'habitais au Bangladesh ou sur le bateau. Et ça s'appelle les Yalta Club.
Et c'est Love. Allez.
Yeah.
de retour dans Ça commence par moi l'émission. Nous sommes avec Corentin Châtel-Perron du Low-Tech Lab. Bon, cette deuxième partie d'émission, moi je voulais commencer par te poser une question peut-être un peu évidente pour toi. Mais si tu dédies ta vie au low-tech, c'est parce que tu penses que les high-tech ne font pas partie de l'équation pour vivre de manière plus durable, égalitaire, heureuse sur cette terre ?
Je pense que les deux ont leur place et je me sers vachement des high-tech en fait au service des low-tech. Pourquoi ? Parce que j'utilise énormément Internet qui est en train de créer un espèce de gros cerveau mondial quand même qui relie des gens de un peu partout dans le monde, donc je compte vachement sur ces high-tech aussi. Mais je pense qu'il n'y a pas assez de place, pas assez d'énergie, pas assez d'argent qui est misé sur les low-tech parce que là il y a des choses formidables à faire. T'imagines tout le... toute l'énergie qui est mise sur un progrès qui est pas forcément utile, quelquefois des high-tech qui servent vraiment à rien.
Tu veux dire que ça sert à rien d'avoir un téléphone toujours plus plat, toujours des télés plus grandes, ça c'est pas forcément des développements
qui nous intéressent. Disons que si j'étais à la tête d'un centre de recherche mondial avec des milliers de chercheurs, je pense que je les focaliserais pas là-dessus, non.
Ouais.
Et il y a énormément de choses à faire dans les low-tech et on a toujours l'impression que l'innovation est liée au terme de high-tech, alors qu'il y a énormément d'innovations possibles dans les low-tech qui servent à beaucoup plus de gens et qui pourraient vraiment rendre service à notre planète.
Toi, quand tu étais étudiant ingénieur, j'imagine qu'on avait envie que tu rêves de nucléaire, que tu rêves de quantique, que tu rêves de moteurs électriques et tout ça, non ? Comment t'as fait pour t'y retrouver dans les low-tech ?
En fait, c'est peut-être par envie de savoir se débrouiller soi-même, de savoir... peut-être d'en avoir marre de pas comprendre ce qui se passe derrière les choses. Quand t'es en école d'ingénieur, t'essayes d'apprendre, par exemple, là, ce micro, comment ça marche et ce qu'il y a derrière, l'interface que tu vois derrière le packaging, tu vois. Et c'est un petit peu pareil pour tout. Ça te pousse quand même à essayer de comprendre les choses, à t'intéresser au truc. Et quand tu t'aperçois que tout ce qui t'entoure, t'y comprends rien, ça te donne aussi peut-être de liberté, d'autonomie, de dire j'aimerais bien en fait savoir faire pousser des plantes, savoir ce que je mange, d'où ça vient, savoir mes fringues, comment elles ont été fabriquées, d'où elles viennent, etc. Puis peut-être que petit à petit c'est comme ça que je me suis intéressé au low-tech.
Tu te poses beaucoup de questions, non ?
Ouais, je me pose pas mal. J'ai habité 4 ans au Bangladesh. Quand t'habites au Bangladesh, tu vois vraiment les coulisses de notre mode de vie. Et je pense, l'autre jour, je pensais à un truc marrant, enfin marrant et pas marrant. Imagine si tu faisais une soirée avec tout le staff de ta vie, tous les gens qui, depuis que t'es petit, ont participé, derrière les rideaux, à faire que ta vie a été possible depuis les Chinois qui ont fabriqué les biberons que tu utilisais quand t'étais petit jusqu'à là les Bangladais qui ont fait les fringues, enfin je sais pas quelles fringues tu portes hein, mais ou ceux qui ont produit ta bouffe à l'autre bout du monde, etc. Mais ça représente des centaines de millions de gens,
ouais,
je pense.
Bien sûr.
C'est énorme,
c'est
gigantesque. Il y aurait Mark Zuckerberg, hein, tu utilises Facebook, il y aurait plein de gens que tu connais pas, enfin bref. C'est vrai que ça amène à se poser pas mal de questions de voir tout ça.
Sur ce qu'il y a derrière.
Ouais.
Ouais. Et est-ce que ta démarche est aussi un peu nourrie par cette idée que on parle de plus en plus du fait qu'on nos ressources à disposition pour produire nos objets, pour faciliter notre mode de vie, elles sont en train de s'épuiser, ces ressources, et donc du coup il faut réussir à s'en détacher. Est-ce que tu as ce lien dans la tête ? Est-ce que tu as cette motivation derrière la quête des low-tech ?
Ouais, il y a un vrai souci d'efficacité en termes de ce que ça apporte, l'utilité par rapport à ce que ça consomme et quel impact ça a sur la nature. Donc effectivement, je vois pas tant que ça la limite des ressources. Je vois surtout que on doit avoir des modes de vie beaucoup plus focalisés sur notre bien-être, celui de notre entourage, celui de la planète, etc. Et que si on se focalise vraiment là-dessus et qu'on trouve la manière la plus efficace de répondre à ça, il faut changer pas mal de choses et tout d'un coup on se rend compte qu'il y a pas tant que ça de problèmes de ressources, je pense.
Ouais, mais du coup ça veut dire radicalement changer notre manière de faire, de vivre.
Ouais, mais alors ça, en fait, effectivement, et en fait, il serait temps aussi, parce qu'il y a des milliards de personnes partout dans le monde qui rêvent d'avoir les mêmes modes de vie que nous. Si nous, enfin, tu vois, les low-tech peuvent permettre d'aider des gens qui sont sous contrainte, mais nous, il faut vraiment qu'on trouve un moyen d'être plus efficace. Et en fait, je suis depuis quelque temps un petit peu tous les mouvements, tous les gens qui adoptent des modes de vie qui sont alternatifs, qui sont différents. Comme t'as par exemple, parmi les plus vieux, il y a les véganes ou il y a les végétariens, mais maintenant t'as les minimalistes, il y a les no ruraux, il y a les locavores, il y a les zero waste, il y a tous ces gens-là. En fait,
les tiny house, etc.
Les tiny houseurs, je sais pas comment on peut dire. Ouais. Mais bref, il y a plein de gens qui adoptent des modes de vie. Pas parce qu'ils sont sous contrainte, pas parce qu'ils sont obligés d'adopter ces modes de vie, tu vois, personne ne les oblige, mais parce que ils pensent que ils choisissent en fait de régler chaque paramètre de leur mode de vie en fonction de leur valeur, pour qu'elle soit cohérente en fait avec leurs valeurs et avec leurs convictions. Et en fait, je sais pas, sur le mouvement Zero Waste qui a pris vachement d'ampleur ces dernières années, qui s'est propagé vraiment partout dans le monde, c'est des gens qui vraiment vont radicalement changer leur vie, parce que si tu veux faire du zéro waste sur la nourriture par exemple, t'es obligé d'acheter tes trucs en vrac, donc souvent dans des magasins bio. Ensuite tu dois, je sais pas, ce matin j'ai fait du dentifrice avec de l'argile, des trucs comme ça, enfin bref, ça change un petit peu toute ta vie. Et ce que je trouve génial, c'est que ces gens là du coup qui explorent des modes de vie un peu sur mesure, tu vois, ils ont tous un mode de vie différent, ces gens-là, et ben ils disent vivre mieux. Et ça, je trouve que c'est vraiment la nouvelle, la meilleure qui puisse nous arriver, que des gens estiment vivre mieux alors qu'ils ont un impact plus faible sur la nature.
Mais du coup, tout ce qu'on nous dit, on nous a menti. On n'a pas besoin d'Elon Musk et de tous avoir des toits solaires et d'avoir des voitures électriques et encore moins d'aller sur Mars pour réussir à être heureux.
Eh ben en fait, je pense que ça dépend des personnes, mais que chacun doit s'auto-analyser. Et si, moi par exemple, j'ai fait une expérience sur moi-même pendant que j'étais sur ma plateforme en Thaïlande, j'ai listé tous les moments où j'étais le plus content. Je sais pas si ça t'arrive comme ça, quelquefois tu dis tiens là, je suis super content.
Ouais, c'est totalement. Ouais.
Et j'ai noté le contexte dans lequel j'étais à ce moment-là. Tu vois, ce que je faisais, machin, ce que j'avais mangé. Enfin, je mangeais tous les jours la même chose, donc c'était pas très dur. Et après, j'ai analysé pendant 4 mois les moments où j'étais le plus content. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était que des moments hyper simples. Je m'attendais pas à une telle simplicité. Tu vois, c'était que des moments où je bricolais, par exemple, en écoutant de la musique ou des trucs comme ça. C'était même pas lié à des réussites, à des succès. Tu vois. Et je me suis dit, je suis comme ça. Alors peut-être que les autres sont différents, mais moi je suis comme ça. Il faut que je fasse en sorte que dans ma vie, je répète, enfin tu vois, que je puisse être content, tu vois, tu vois ce que je veux dire.
Bah bien sûr, t'as analysé les moments qui en fait étaient les plus heureux de tes 4 mois, et tu t'es dit, mais attends, du coup, j'essaie de voir s'il y a un fil conducteur dans ces moments pour derrière pouvoir, pourquoi pas, le répéter.
Exactement. Et en fait, si tu t'auto-analyses pas, en tout cas, moi, pour moi, c'est ça, si je m'auto-analyse pas, je vais, par défaut, suivre un petit peu des modes de vie que tout le monde a, en fait, mode de vie un peu mainstream, que la pub essaye de me faire comprendre.
Exactement.
Et donc, voilà, depuis, j'essaye de m'analyser, de me comprendre.
Mince.
Pour faire des bons choix de mode de vie et pour me tailler un mode de vie sur mesure.
Tu suis ton propre bonheur, mais non, mais ça y est, t'as complètement foutu le camp. T'es un peu plus récupéré. Est-ce que tu veux pas nous la partager, cette liste de tes petits bonheurs, qu'on fasse une sorte de chapeau des listes du bonheur? Non, mais attends, c'est hyper intéressant.
Mais chacun a sa liste perso. Ça se trouve, toi, ce serait pas du tout les mêmes moments.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais
je trouve ça intéressant, la démarche.
Chair de poule, tu vois, c'est les moments où je suis avec quelqu'un et je vois que 1 plus 1, ça fait plus que 2. Mm-hmm. Je sais pas comment te le dire mieux que ça, mais parce que j'ai l'impression qu'on pense différemment, on connaît des choses différentes et on s'apporte des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Et que tout d'un coup, la logique, elle perd pied et qu'il y a quelque chose un peu magique qui se passe. Ça, c'est mes moments chair de poule, tu vois.
Ah, pas mal. Ouais. Ok. Et est-ce que du coup, dans ton mode de vie, t'essayes de favoriser ces moments-là? A priori, oui, puisque tu fais une émission de radio, par exemple, où tu rencontres des gens.
Exactement.
T'as la chair de poule, là?
Ça y est, c'est Corentin qui m'interviewe. Donc, officiellement, pour les 25 prochaines émissions, c'est Corentin qui reprend les clés. Ça commence par moi, l'émission. C'est moi ici qui pose les questions. Non, mais c'est vrai.
Excuse-moi.
Non, mais t'as raison. C'est aussi comme ça que j'ai décidé de tirer le fil de ma vie, en essayant d'être le plus heureux possible. Et être le plus heureux possible pour moi, c'est de rencontrer des gens inspirants.
Ouais. Et du coup, ça répond à tes questions de... Enfin, je pense qu'il faut que chacun fasse en fonction de soi-même et qu'on n'évolue pas tous vers un même mode de vie. Tu vois, qu'il n'y ait pas un modèle, mais qu'il y ait 1000 modèles.
Ouais.
Et quand tu disais, Elon Musk qui veut aller sur Mars. Là, je pense qu'il se gourre complètement.
Non, mais c'est important. Pourquoi? De dire parce que toutes les personnes qui sont en train de terminer leur étude en disant je rêve un jour, imagine si je vais chez Tesla, Google ou je sais pas quoi. Pourquoi
mais
il se
plante? Mais ça, enfin, tu vois, imagine dans 1000 ans, les gens qui vont étudier notre époque, qui vont voir ce qui se passait à ce moment-là, que la biodiversité s'est complètement cassée la gueule, ils vont se dire mais attendez. Ils ont essayé d'aller sur Mars exactement à cette période-là, mais qu'est-ce qu'ils foutaient? Mais à quoi ils pensaient, les mecs?
De technologie, d'argent, de cerveau.
Mais oui, pour aller sur Mars, alors que Mars, c'est une planète pourrie quand même. Faut le savoir, j'ai regardé sur Wikipédia un peu, parce que je me suis demandé pourquoi ça les intéressait spécialement cette planète. Ça passe de, je sais plus, de moins 30 degrés à je sais plus combien, c'est désertique, sur Terre, il n'y a même pas d'endroit aussi nul que Mars. On a des super ressources sur Terre, la planète elle est magnifique, il y a encore quand même pas mal de trucs vivants cool. Et franchement je comprends pas du tout. Et en plus, c'est vachement cher d'aller là-bas.
Et pourtant, il y a plein de gens qui disent « Mais ça y est, moi, je m'expose à 3 ans de radiation spatiale qui, pour l'instant, en l'état, ont été calculés comme quelque chose de hautement cancérigène pour aller vivre sur Mars avec potentiellement la possibilité de ne pas pouvoir revenir avant 3 ans. Donc, on va savoir combien de choses peuvent se passer pendant 3 ans. »
Mais il faut qu'ils fassent un stage dans le Sahara ou un truc nul, tu vois.
Ces gens-là se disent « C'est sexy. Comment on fait, Corentin ?» pour que les low-tech, ça soit sexy, parce que c'est quand même autrement plus durable d'être dans un monde low-tech que d'être dans un monde sur Mars, quoi.
Ouais, c'est une bonne question.
Comment ça sexy? Est-ce qu'on fait un calendrier des low-tech avec des rugbyman nus? Est-ce que ça doit passer par ça? Est-ce qu'il y a d'autres manières? Non, mais tu vois...
Non, en fait, tu vois, quand je reprends l'exemple du Zero Waste, du mouvement Zero Waste, pourquoi est-ce qu'il se propage à fond? C'est parce qu'il y a des gens qui essayent vraiment. Tu vois, qui se lancent des défis. Par exemple, tiens, ce mois-ci, je vais essayer de ne pas utiliser de déchets, d'emballage plastique. Ils se lancent les défis et après, ils témoignent. Il y en a plein qui font des blogs ou qui en parlent à la radio, à la télé, sur Internet, machin. Et en fait, le fait d'avoir des gens qui ont essayé et qui partagent, ça rend le truc sexy, ça rend le truc atteignable, en fait. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a de plus en plus de mouvements, de modes de vie qui vont avoir l'effet boule de neige, qui vont partir en boule de neige, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui testent et qui témoignent. Je peux me permettre une petite citation que je trouve cool.
Vas-y.
C'est Confucius qui disait « J'entends et j'oublie, je vois et je retiens, je fais et je comprends. » Et en fait, je suis à fond là-dedans parce que à chaque fois que je fais un truc par l'expérience, tu vois, comme toi, je suis devenu végétarien aussi il y a quelques années. Et en fait, je me suis dit au début, je vais essayer pendant quelques mois ou pendant une année d'être végétarien pour voir. Et en fait, je le suis resté parce que je me suis dit, ça me correspond, je vis mieux comme ça, etc. Et donc, depuis, je fais plein de tests sur plein de trucs. Pourquoi ça marche pas?
Dernière question qui est hyper difficile comme ça, mais si là, il y avait une low-tech qu'on pouvait très vite propager dans le monde entier avec un effet extraordinaire, ça serait laquelle? En 2 secondes. Je voulais absolument avoir une réponse.
Vite. Une low-tech qui serve à tout le monde, mais c'est vachement dur. Il y en a plein, en fait. Non, je suis désolé, il y en a pas une. C'est trop difficile. En fait, tu vas sur le low-tech lab et tu regardes.
C'est une super conclusion. Merci, Corentin. Et ben voilà, je crois qu'on se sera plus marré qu'autre chose, mais ça veut dire à quel point moi j'ai passé un moment extraordinaire. Je te remercie à nouveau, Corentin. Low-tech Lab, tu peux nous donner l'adresse pour qu'on aille faire un tour.
Low-tech-lab.org.
Et voilà, c'est aussi simple que ça. Merci beaucoup. Et ça commence par moi, c'est déjà fini, ça passe beaucoup trop vite ces émissions. Moi je suis forcément ravi d'avoir passé ce moment avec vous, d'avoir pu donner l'opportunité de découvrir comme ça d'autres moyens de vivre, d'inventer. C'est extraordinaire de participer à ça. Merci à Raj pour son soutien, merci à toute l'équipe qui a permis de rendre cette émission possible. Lambert, Raph et Roman bien évidemment. Si vous voulez réécouter ou partager cette émission, je vous donne rendez-vous sur raj.fr ou sur iTunes. Continuons à construire un monde meilleur, continuons à être heureux. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut.
Construire un monde plus humain, ça commence par nous, avec le Crédit Coopératif. Ensemble, nous avons ce pouvoir, le pouvoir du nous.